Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Retour à Jean-Sébastien Bach, si je compte bien. C'est la sixième fois que David Frère enregistre le compositeur allemand. Et cette fois, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, on peut le dire sans galvauder le mot, avec des mystères sans fin, les variations Goldberg. Le disque vient de paraître chez Erato. Bonjour David Frère.
Bonjour Jean-Baptiste.
Il y a beaucoup, beaucoup de disques qui sont sortis depuis la rentrée, et notamment beaucoup de disques Bach, et la plupart enregistrés pendant ces périodes de concerts, ces 18 derniers mois. En quoi Bach, si c'est le cas, est-il un refuge, voire un confident pour les musiciens?
Bach, en général, est une source à laquelle on vient s'abreuver régulièrement, nous, les musiciens. Après, dans des périodes de crise, j'ai l'impression, effectivement, que son langage, qui est fait de rationalité, mais en même temps d'une expressivité qui n'est jamais prise en défaut, est une sorte d'équilibre dont on a besoin, et peut-être encore plus, effectivement, dans ces moments-là.
Ce choix des Goldberg, c'est un choix de cette période, choix que le disque a été enregistré très récemment, il y a à peine 6 mois.
Oui, effectivement, on l'a fait au mois de juin, alors qu'on sortait du dernier confinement, et j'ai fait ça, forcément, on parle des circuits courts, donc là, c'était difficile de faire plus court, puisque j'ai fait ça à 2 minutes de chez moi, dans une chapelle qui a bercé mon enfance dans les Hautes-Pyrénées, et du coup, ça donne à ce disque, en tout cas, pour moi qui l'ai vécu de l'intérieur, une couleur un peu particulière.
L'enregistrer dans une église, qu'est-ce que ça change? Déjà, il y a l'acoustique.
Oui, alors d'habitude j'enregistre à Notre-Dame du Liban à Paris, qui est un lieu que j'aime beaucoup. Mais là, pour plein de raisons, il fallait le faire ailleurs. Et c'est vrai que c'est un lieu qui moi porte évidemment des souvenirs de mon enfance, mais effectivement qui en plus acoustiquement c'est toujours ces lieux-là que je préfère en général pour jouer cette musique.
À Barbazan de Bâle, la chapelle Notre-Dame de Pietà.
Exactement, avec une vierge, une petite vierge miraculeuse, une petite statue polychrome en bois, qui paraît-il aurait sauvé le village de la peste. Donc vous voyez, il y avait un lien avec une autre épidémie il y a 5 siècles.
On part écouter Jean-Sébastien Bach, écouter David Frey dans les Pyrénées-Orientales. L'aria qui ouvre ici et ensuite qui referme ces variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. David Frey, dans la chapelle Notre-Dame de Piéta à Barbazan de Bas, dans les Hautes-Pyrénées, et non pas dans les Pyrénées-Orientales, première bêtise, mais à culpa, pardon, à nos auditeurs occitans et à vous-même. Entrons dans le vif du sujet, cet aria qu'on a tous, je crois, dans l'oreille. Il y a des choix d'interprétation, il y a même des ornements que vous faites. Quels sont vos choix, là? Comment vous avez...
Alors, oui, c'est une sorte de... Alors, c'est marqué, c'est noté aria, mais c'est une sorte de sarabande, en réalité. Il faut la jouer le plus simplement possible, forcément, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit une aria en deux parties, en fait, dont chacune est reprise. Et ça offre énormément de possibilités. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces reprises pour faire des ornementations. C'est pas l'option, moi, que je choisis en général, et encore moins pour cette œuvre-là. Moi, je pense que le piano a justement des possibilités qui font qu'on peut varier sans pour autant rajouter des fioritures qui, à mon avis, ne sont pas forcément indispensables dans une musique qui va tellement à l'essentiel comme celle-ci. Donc je préférais, et j'ai trouvé ça d'ailleurs plus intéressant au fond, je préférais varier d'une manière assez subtile pour faire sentir, c'est ça l'expérience des Goldberg, le temps qui passe, en fait. Et je pense que si vous variez les reprises d'une manière trop nette, en fait, je suis pas sûr que cette impression-là surgit de la même manière.
Elles servent à quoi, ces reprises? On ne peut pas faire les variations Goldberg sans reprise, ce serait sacrilège?
Ça a été fait, en tout cas, c'est vrai que pour les gens qui sont un peu moins patients, on peut effectivement... Mais je pense que là aussi, l'expérience du temps n'est pas la même, et je pense que l'œuvre, elle a été réellement pensée comme ça, et c'est cette durée-là qui fait que le voyage a cet impact et cette ampleur.
Dans cette question de l'interprétation, de l'ornementation, vous êtes documenté, vous avez écouté beaucoup ce qui se fait par exemple au clavecin, vous avez été, là vous avez enregistré sur un piano qui n'existait pas du ouais. temps de Jean-Sébastien Bach.
Oui, évidemment, il y a des versions de clavecin que je connais et que j'aime. Mais là, bon, effectivement, il fallait... Ce qui est intéressant, par exemple, c'est au niveau de l'ornementation, c'est le tout début, par exemple. Tom, tom, tagaran, tiran, tara, tiram. Beaucoup de gens font cette ornementation plus lente. Or, c'est pas forcément ce qui est marqué sur le texte. Et j'ai parfois lu des comptes rendus de gens qui disaient, ah tiens, il fait pas le texte. Mais en fait, non, c'est simplement que l'ornementation est marquée ainsi. Alors, après, chacun peut l'interpréter différemment, mais c'était le choix que j'ai fait.
Justement, il y a dans l'oreille des versions, il y a notamment les versions de Glenn Gould. Il y a un avant et un après pour vous?
Moi, je dirais qu'il y a un avant et un après, la version de 1981 en particulier.
La dernière?
Oui, la dernière, parce que justement celle-là, à mon avis, pousse l'expérience du temps, comme je le disais, et la portée analytique à un niveau qui est quand même assez difficile à égaler.
Est-ce que ça donne le vertige de se plonger dans ce texte-là?
Je dirais que oui, mais le vertige de celui qui arrive au sommet après une longue randonnée, disons, et qui se rend compte du chemin qu'il a parcouru, mais qui ne s'en rend compte qu'à cet instant précis où il s'apprête d'ailleurs à rejouer le thème pour la dernière fois. Et cette réapparition du thème, justement, elle a quelque chose de bouleversant.
Et de cyclique.
De cyclique, effectivement. Il faut quand même imaginer aussi que la vision du temps comme une flèche n'a pas toujours été celle de nos grands anciens. Et on pouvait aussi l'imaginer comme quelque chose de circulaire, effectivement.
Justement, si on remonte le temps, David Fray, de quand date votre rencontre avec ces variations Goldberg?
En tant qu'auditeur, effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai découvert cette œuvre par la version de Gould de 81. Mais après, comme musicien, comme interprète, j'ai ouvert la partition... Il n'y a pas si longtemps, en fait. C'était pas une œuvre que je pensais jouer un jour dans ma vie. Et finalement, j'ai été un peu pris.
Ça s'est fait
comment ? Ça s'est fait parce que mon agent hollandais me l'a proposé pour le concert de Gebau et que j'avais envie de jouer au concert de Gebau. Et que je me suis dit, tiens, moi qui aime bien les choses un peu impromptues et les signes du destin, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et donc, j'ai essayé. Mais si j'avais pas trouvé... Le moyen d'aborder ce massif tellement complexe, je pense que je lui aurais dit que je passais mon tour. Mais je me suis plongé dedans et sans prétendre trouver une solution, mais en tout cas j'y ai trouvé une vraie satisfaction.
Quand on les joue en concert, c'est aussi un rapport particulier avec le public, ça dure une heure et demie sans interruption.
Oui, ça c'est beau vraiment de sentir qu'on part d'un... de cette première note jusqu'à la dernière et que finalement on pourrait la jouer sans s'interrompre et de sentir la concentration et le silence du public. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recueillir quand on joue une œuvre comme celle-là.
Encore une version des variations Goldberg, et bien tant mieux parce que David Frey fait des choses qu'on n'a jamais entendues. Voilà, là, c'était les versions 3 et 4, les variations Goldberg. David Frey, un nouveau disque qui vient de paraître chez Erato. En écoutant votre disque, David, je trouve qu'il y a quelque chose de très humain dans cette version, très chantant. Quels sont les sentiments humains qui traversent cette œuvre pour vous ?
Tous, c'est ça la grandeur des versions Goldberg. C'est une sorte d'œuvre-monde. Et on disait au micro que beaucoup s'étaient plongés dans cette œuvre pendant le confinement, mais ça se comprend, puisque en fait, vous pouvez être enfermé dans votre chambre, mais avec les versions Goldberg, vous voyagez, vous traversez à peu près toutes les émotions humaines possibles, aussi évidemment toutes les manières de traiter un thème possible. Et c'est ça qui en fait, je pense, la fascination qui perdure 3 siècles plus tard.
Au piano, au clavecin, à l'orgue, il y a même eu ces dernières années pas mal de versions arrangées, trio à cordes, orchestre à cordes aussi, comme si c'était sans fin.
Mais oui, et puis c'est vrai que Bach permet des transcriptions, puisque lui-même était un grand transcripteur, et ses œuvres sont tellement bien écrites finalement qu'elles peuvent bien sonner avec beaucoup de nomenclatures différentes.
Est-ce que le défi principal dans cette œuvre-là, dans cette musique, et vous qui avez beaucoup pratiqué Jean-Sébastien Bach et enregistré, c'est que c'est à la fois très mathématique, formel en tout cas, et puis avec une grande poésie en même temps, comment on concilie les deux?
Oui, en fait la difficulté d'une telle œuvre, je trouve en tout cas, c'est de lui ôter en tout cas en partie son caractère d'exercice de style en réalité. Parce que il faut vraiment que chaque variation soit à la fois différenciée et en même temps qu'elle s'intègre à un ensemble. Ça vraiment c'est le travail le plus intéressant que j'ai eu à faire sur cette œuvre, c'était vraiment comment on pouvait un peu sur le modèle des comptines pour enfants, vous savez, quand vous prenez la dernière syllabe et puis vous faites un nouveau mot, etc. Que vraiment les choses s'enchaînent d'une manière logique et absolument déterminée.
Comme ça, une ligne continue.
Oui, oui. Je pense que ça, c'est très difficile parce qu'elles sont effectivement très, très diverses, très variées, très. C'est comme des personnages quelque part qui sont très, très bien définis, mais en même temps, ces personnages sont peut-être 30 facettes d'un même visage. Et il faut que derrière ces personnages différents, le visage qu'ils ont en commun transparaisse toujours. Ça, c'est difficile, par exemple.
Avec des ruptures, c'est en deux parties, c'est variation Goldberg, et puis il y a seulement trois variations, si je ne m'abuse, en mineur.
Oui, absolument. Et ces variations-là, elles sont effectivement très très marquantes. La plus longue, qui est la 25e, et qui marque une sorte... Après ça, on a l'impression qu'on va vraiment vers la fin, c'est une sorte d'épilogue, mais la 25e fait partie de ces moments où on a l'impression que Bach réfléchit en musique. En fait, et ça, je trouve que c'est assez fascinant d'entendre une pensée exprimée en musique, une sorte de presque de divagation avec des harmonies extrêmement audacieuses. Et ça, et une nudité aussi. Ça, c'est une musique qui est en plus d'une modernité quand même assez assez frappante.
Des variations qu'on appelle les perles noires.
C'est ça, c'est ce que disait Wanda Landowska, elle avait raison. Et elles ne sont que trois, bon, le chiffre 3 en plus, il faut quand même le signaler, a un rôle dans les variations Goldberg qui est fondamental. Elles sont, c'est pas un hasard, elles sont effectivement au nombre de 3.
Et voici l'une de ces perles noires sous les doigts de David Frey. David Frey, dans cette 15e, si je ne m'abuse, 15e variation Goldberg sur votre disque Erato, vous faites aussi quelque chose qu'on entend rarement, ce qu'on appelle le rubato, le changement, le tempo qui s'étire, qui varie. Il y a des gens qui font absolument pas ça et il y a des gens qui doivent nous écouter qui doivent être terriblement choqués.
Ah bah alors je m'en excuse auprès d'eux.
Mais non, expliquez-nous.
Non, je crois qu'effectivement, quand je disais que justement je me refusais à ornementer les reprises de manière trop systématique, etc., c'est justement parce que je trouvais intéressant de donner simplement une autre résistance dans la diction par rapport aux matériaux à la deuxième fois par exemple, ou parfois un abandon plus grand aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ce qu'on appelle l'agogique, c'est-à-dire la manière de gérer le temps musical, et qui sont à mon sens peut-être plus intéressantes que simplement rajouter un tri ou un groupetto par-ci par-là. Ça, je trouve ça un peu artificiel, j'avoue.
Une variation Goldberg de David Frey, disque Erato, enregistré donc dans les Hautes-Pyrénées à Barbazan-de-Bas. C'est aussi dans les Hautes-Pyrénées que vous avez créé l'été dernier un festival au nom très Jean-Sébastien Bach. C'est l'Offrande musicale. Quel bilan vous tirez de cette première édition, David ?
Ah, c'était une très très belle expérience. Bon, on sortait encore là aussi du confinement, mais c'est pour moi ça c'est vraiment un projet qui est très très important dans ma vie. Et je pensais pas d'ailleurs que je pensais être un musicien qui joue point à la ligne. Et puis finalement j'ai découvert cette manière aussi de travailler sur la musique qui est un peu différente, c'est-à-dire d'organiser quelque chose pour mon territoire et pour une cause qui me tient à cœur, qui est la cause du handicap. Et donc ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie, de temps, mais en même temps qui me passionne et dont je suis très 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 fier, et j'espère qu'on va le développer de plus en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte aussi énormément.
Comment ça s'est passé ? Quels souvenirs vous avez de ces concerts où il y avait beaucoup donc de personnes en situation de handicap, ouais, moteur, mais aussi mental ?
Oui. En fait, il y avait un public, je dirais aussi également traditionnel, bien évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'était justement la mixité des publics. Vous le rappelez, on a offert effectivement un cinquième des places de concert à des personnes en situation de handicap, à leurs accompagnants. On a ouvert les répétitions générales pour certaines d'entre elles qui ne peuvent pas assister à un concert pour des raisons multiples liées à leur pathologie. On a fait des captations, des médiations avec de la musicothérapie. Enfin, le but, c'était, et finalement le confinement nous a conforté dans cette idée-là, de dire que la musique avait un rôle à jouer pour les gens qui souffrent dans leur esprit ou dans leur corps, et que ce langage-là qui est accessible à tout un chacun, qui n'a pas besoin d'une syntaxe particulière je pense qu'on peut comprendre Mozart sans savoir comment l'œuvre est construite ou écrite. On le sent en fait plus qu'on ne le sait parfois. Et donc ce langage-là, cet équilibre-là que l'on trouve dans la musique, on a eu la preuve pendant le festival qu'effectivement il avait des vertus qui dépassaient le simple plaisir d'être en rapport avec une belle œuvre.
Et pour vous, c'est fondamental de mêler les publics.
Oui, ça c'était très important, et parce que si vous voulez, on pourra en parler plus longuement peut-être une autre fois, mais le problème du handicap, c'est non seulement la bataille que la personne mène contre elle-même, en un sens, mais quand la société, en plus, vous rajoute des barrières, parfois c'est juste de l'accessibilité d'un point de vue purement matériel, mais parfois cette barrière, ça peut être le regard aussi, l'incompréhension. Et donc ça, je pense que le festival se doit, et c'est notre but de travailler aussi là-dessus pour que ce combat-là ne soit pas en plus alourdi par ce que la société peut hélas leur faire peser.
L'Offrande musicale, édition 2, c'est prévu ?
C'est absolument prévu, plus que jamais, à partir du 29 juin jusqu'au 11 juillet.
On en reparlera sur France Musique, un festival qui est né de cette période particulière, sans concert, le confinement, les confinements. Vous avez été, David Frey, l'un des fers de lance lors du premier confinement du mouvement pour que la voix des musiciens indépendants soit entendue aujourd'hui, un an et demi après. Qu'en est-il ? Est-ce que ça a changé des choses ? Est-ce qu'il y a plus de solidarité entre les musiciens qu'avant, par exemple ? Quel silence ?
Je sais pas. Je pense que c'était une très belle chose ce qui a été fait, je trouve, à cette période-là. Je suis pas sûr, malheureusement, qu'elle ait eu vraiment une suite et qu'on ait été vraiment entendu, pour vous dire la vérité. Je crois même que non, puisque il y a eu une petite chose qui a été faite pour les musiciens indépendants, mais qui est plus symbolique qu'autre chose.
Vous parlez de l'aspect financier, là, purement financier.
Oui, absolument. Mais bon, c'est hélas ce qui permet à certains musiciens de continuer leur travail et de ne pas passer à à livreur de pizza, comme je l'ai vu ces derniers mois pour certains musiciens. Donc, si vous voulez, il y a un problème de statut. Bon, ça aussi, c'est un sujet un peu complexe qu'il faudra aborder plus longuement. Mais il y a un problème de statut pour les musiciens qui jouent beaucoup à l'étranger.
Donc, ils n'ont pas d'intermittence.
Voilà, exactement. Et ça, on a essayé un peu d'avertir les pouvoirs publics à l'époque là-dessus, mais encore une fois, je pense qu'on est trop peu nombreux pour être entendus, hélas.
Vous êtes surpris vous-même de devenir un porte-parole ?
Non, mais je me sens pas un porte-parole, si vous voulez, parce que je prétends pas être représentatif. Je dis juste ce que moi j'ai vécu personnellement, mais ça c'est pas le plus grave. C'est ce que je vois aussi autour de moi et la manière dont, hélas, voilà, ça n'a pas été vraiment pris en considération. Et je pense que, si vous voulez, ce qui m'a attristé, c'est que. Comment dirais-je, c'est que voilà, on a beaucoup parlé de beaucoup de corps de métier, mais celui-là quelque part je trouve a été négligé, et puis la place de la culture a été aussi, à mon avis, quelque chose de problématique dans cette période-là. La culture a dû être considérée comme une solution, pas comme un problème.
Peut-être que des candidats à la présidentielle nous écoutent ce matin, 8h55. Voici une nouvelle variation Goldberg de Jean-Sébastien Bach sur ce disque qui vient de paraître chez Erato. Et on s'est quitté avec la numéro 19e variation Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprétée par David Frey. D'autres variations 17. Goldberg.
C'est la 17e.
C'est la 17e.
Il me semble. Hein.
C'était pour voir si vous suiviez. Un disque qui vient de paraître chez Erato. Merci beaucoup, David Frey. Demain, on parlera de l'avenir de l'opéra avec nos invités. Caroline Sourier, directrice de l'Opéra de Lille, qui a signé un rapport sur la question. Et Jean-Philippe Thiellet, le président du Centre National de la Musique, qui vient de signer également un essai sur ce point-là. Au générique de Musique Matin, aujourd'hui, il y avait YouTube Diego Aclopès, Maximilien Hodge, Taïsia Froidure, Flora Sternadel, Marion Guillemet et Pierre Matignon. Et la réponse à notre jeu, la voix mystère du jour, c'était celle d'Henri Dess. Et oui, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bonjour Émilie, rebonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste, on va chanter l'amour et danser l'amour. C'est le dernier disque de Rinaldo Alessandrini, Monteverdi, très beau disque.
Je crois que c'était une comédie musicale.
Sur du Henri Dess.
Fait son show.
Sur du Henri Dess, ça va nous rajeunir.
Allez, à demain.
À demain.